ça va depuis la dernière fois. Installez-vous sur le fauteuil.
Avez-vous mal au ventre, à la tête, au dos, une rhinite, ou bien des vertiges, une fatigue qui ne passe pas?
Je vais commencer par prendre votre tension. Est-ce que vous pouvez enlever votre manche?
Sur une période d'un mois, nous sommes 8 sur 10 à ressentir un de ces symptômes. Comment vous les vivez, ces symptômes?
Peut-être que vous les acceptez. C'est comme ça.
Vous les normalisez. Ou pas.
Ok, j'ai pris la tension. Elle est normale, tout va bien.
Ces symptômes prennent trop de place dans votre vie. Ils sont un problème.
Vous vous dites que ce problème est sûrement médical. Alors vous allez consulter votre généraliste.
Je vais vous demander de respirer bien fort par la bouche pendant que j'écoute vos poumons.
Vous faites le même choix qu'une personne affectée sur quatre.
Mais les radiographies, les échographies, les examens biologiques ne montrent rien d'anormal.
Vous rentrez chez vous, troublé. Vous vous dites, normal que j'ai une lombalgie en ce moment, j'en ai plein le dos. Dans 75% des cas, après la consultation, votre symptôme s'améliore ou même disparaît.
Quand je vous examine, quand je vous ausculte, je trouve rien d'anormal en tout cas.
Bref, vous avez un symptôme médicalement inexpliqué. Un symptôme fonctionnel. Serment d'Augusta, épisode 9. J'écouterai le corps raconter les tourments de l'esprit. Si vous avez un symptôme médicalement inexpliqué, sachez que vous n'êtes pas seul. Les troubles fonctionnels sont tellement fréquents qu'on estime qu'ils sont la cause d'environ une consultation de médecine générale sur trois.
On dit qu'un trouble est fonctionnel lorsqu'il n'a pas d'explication organique. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de lésion, comme pour un ulcère, ni de mécanisme bien identifié, comme dans l'asthme. Les troubles fonctionnels pris tous ensemble constituent peut-être la maladie la plus fréquente, et certainement une des moins connues.
On a pas mal d'idées fausses sur le sujet.
On dit que ce sont des symptômes médicalement inexpliqués. Mon œil. À la vitesse où va la science, tu vas voir que dans quelques années, on aura trouvé l'explication organique.
Alors ça, c'est du scientisme. C'est-à-dire une croyance totale et même dogmatique en la science. En fait, plus la médecine avance, plus la société se médicalise, plus le nombre de symptômes sans explication médicale augmente.
Bon, ok. Si on ne découvre jamais la cause organique de ces symptômes, c'est qu'ils sont 100% d'origine psychologique, et voilà.
Cette conception selon laquelle soit c'est le corps, soit c'est l'esprit, c'est une approche vieille comme notre civilisation occidentale. On la trouve déjà dans la caverne de Platon. Dans l'allégorie de la caverne, nous sommes enchaînés au fond d'une grotte parce que nous sommes esclaves de nos sens et de nos corps. Soma sema, dit aussi Platon. Le corps est le tombeau de l'âme. Pour nous libérer de notre corps et rejoindre le monde libre et lumineux des idées, un point de départ, la gymnastique. Il faut dominer le corps pour le transcender. Ce clivage entre l'esprit et le corps se radicalise encore lors de la révolution scientifique, avec Descartes et son discours de la méthode. Pour fonder la vraie science, une et éternelle, Descartes rejette l'expérience des sens comme source de connaissances fiables. Pour Descartes, le corps ne peut en aucun cas être source de sagesse. Le corps est juste une machine. Cette vieille conception dualiste du corps et de l'esprit fait encore des ravages. surtout lorsqu'on touche aux troubles fonctionnels. Car lors des consultations, lorsqu'un ou une patient-patiente a des symptômes médicalement inexpliqués, voici le raisonnement que va tenir le médecin.
Bon ben, si c'est pas ça, ni ça, ni ça, c'est que c'est dans la tête.
Je me suis toujours posé la question, pourquoi ils m'ont traité comme ça, pourquoi ils ont agi comme ça, je sais pas. Pensais peut-être que je jouais la comédie, que je voulais les embêter, que... Est-ce que c'est parce que ils ne connaissent pas le problème, qu'ils ne le comprennent pas? Est-ce que c'est encore bizarre, peut-être, de parler de la connexion entre le corps et l'esprit? Je ne sais pas. Je m'appelle Claire, j'ai 33 ans, je suis hôtesse de l'air, je fais également de la photographie. Ça a commencé, je me plaignais souvent de mal de dos, mal à l'épaule, mal à la hanche quand je marchais. Et j'ai voulu essayer de monter les escaliers de chez moi. Et en fait, à chaque marche, je m'effondrais et je me mettais à pleurer. Je comprenais absolument pas ce qui m'arrivait en fait. J'avais plus ou moins compris que c'était quelque chose d'émotionnel, mais mon corps a réagi, a commencé à se tordre dans tous les sens. Le lendemain matin, au réveil, il y avait plus rien qui fonctionnait. Je pouvais plus me sortir du lit, je pouvais plus parler, je ne pouvais plus marcher. Et aussi, on ne pouvait plus me toucher. Dès qu'on essayait de me toucher, je me mettais à pleurer et je m'évanouissais. Donc je pars à l'hôpital sans pouvoir marcher ni parler. J'arrive à l'hôpital, ma sœur en fait parle pour moi, explique que ça ne va pas. Je me rappelle les soignants pas forcément très délicats avec moi. J'ai fait une crise non épileptique devant un des médecins et il a répondu « Non mais allez, ça y est, il faut forcer, il faut lutter en fait. » Ça, c'était pas très agréable parce que ça voulait dire qu'en gros, j'avais les moyens de contrôler mon corps et que ça ne dépendait que de ma volonté. Et c'était pas vraiment le cas, en fait. Si j'en arrivais là, si j'en étais au point d'être hospitalisée, c'est que je n'y arrivais plus et que j'avais besoin d'aide, c'était ça.
Claire a un trouble neurologique fonctionnel. Quand elle parle d'évanouissement et de crise non épileptique, il s'agit de crises fonctionnelles dissociatives où elle s'absente et où elle convulse. Ça ressemble vraiment à une crise d'épilepsie, mais si on fait un électroencéphalogramme à ce moment-là, on ne verra pas de décharge électrique anormale dans le cerveau. Et c'est ce qui pousse pas mal de soignants à soupçonner les patients comme Claire de simuler.
Je m'appelle Béatrice Garcin, je suis neurologue, je travaille à l'hôpital Avicenne à Bobigny, dans la prise en charge des troubles neurologiques fonctionnels. Pendant tout mon internat et toute ma première phase de jeune neurologue, quand je voyais ces patients, je considérais que c'était pas de la neurologie, et donc je leur disais vous n'avez rien, c'est dans votre tête, c'est psychologique. Je leur donnais des diagnostics négatifs en leur disant vous avez pas une sclérose en plaques, et clairement ça ne les aidait pas du tout. Quand on voit quelque chose qui ressemble pas à ce qu'on connaît en médecine, on se dit c'est pas possible, ils se moquent de moi.
Alors moi, je suis Coraline Ingré, je suis professeure de psychiatrie à Nancy et je travaille depuis plus de 15 ans sur la question des crises fonctionnelles dissociatives, des troubles neurologiques fonctionnels. Une question importante est de savoir pourquoi, quand les médecins ne comprennent pas exactement ce qui se passe ou quand ils trouvent pas la lésion, l'hémorragie, le virus, l'infarctus qui explique les troubles, ils sont désarçonnés. En fait, il faut quand même se dire que quand on fait médecine, qu'on fait 10, 15 ans d'études, on est là pour amasser du savoir. Et donc, parfois, on a l'impression qu'on peut quand même un peu avoir réponse à tout. Et donc, quand on est face à des troubles qui ne nous ont pas été bien enseignés, parce que c'est aussi une réalité, c'est que les troubles fonctionnels, très souvent, ils ne sont pas particulièrement bien enseignés. Et donc, on se retrouve avec un médecin qui se sent un peu impuissant. Et globalement, les médecins, mais tout le monde, l'homme n'aime pas se sentir impuissant. L'homme aime avoir un sentiment de maîtrise et de contrôle sur la situation. Dans les troubles fonctionnels en général, tu dois réussir à te dire il y a un dysfonctionnement qui amène cette symptomatologie.
J'ai un souvenir assez précis d'une situation où vraiment je pense que j'ai pas fait ce qu'il faut.
Professeur Garcin.
C'était une patiente qui avait des symptômes neurologiques apparus dans les suites d'une histoire assez dramatique, d'une PMA qui s'est mal passée avec une complication grave de la grossesse. Elle a perdu son bébé, elle a été en réanimation. Et puis au décours de ça, elle a des mouvements anormaux et des troubles de la marche qui sont apparus et qui en fait étaient présents depuis déjà plus de 20 ans quand je l'ai reçue en consultation. Et donc cette patiente avait une marche qui pour moi, à ce moment-là, ressemblait à rien. Et donc, d'emblée, je me suis dit, bah, c'est pas neurologique, c'est pas de la médecine. Et donc, j'ai rigolé. J'ai rigolé face à elle. Et en fait, ce qui s'est passé après ça, c'est que la patiente m'a regardée. Et en fait, je me souviens très bien de ce regard. Ça, j'y pense encore parfois. Elle m'a regardée avec vraiment un regard de détresse, de désespoir, de quelqu'un qui vraiment a plus aucune solution. Et elle m'a dit, mais vous trouvez ça drôle? Et donc, à ce moment-là, je pense que vraiment, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Je me suis rendu compte qu'il fallait faire quelque chose d'autre pour ces gens. Cette sémiologie, par exemple, face à cette patiente qui avait des mouvements anormaux, des troubles de la marche, cette sémiologie, moi, je la reconnaissais pas. Donc, je me disais, non, mais j'assimilais ça à de la simulation. Aujourd'hui, si je voyais cette patiente, je reconnaîtrais une marche fonctionnelle assez typique, avec un lâchage du genou, avec une distractibilité. Mais au début, non, je pense que j'assimilais ça vraiment à du faux, à de la simulation.
À la décharge des soignants et aussi de l'entourage des patients-patientes, ces soupçons de simulation ne sont pas récents. Pendant la Grande Guerre, l'ignorance qui entoure les troubles fonctionnels a eu des conséquences dramatiques. En 1914, les soldats partent la fleur au fusil. Mais arrivés sur le front, ils découvrent une guerre atroce. Ils se retrouvent sous des pilonnages d'artillerie de gros calibre qui les projettent dans l'air. Quand on les retrouve sous les décombres, sous les corps de leurs compagnons, ils sont en état d'hébétude. Certains se sont recroquevillés en position fétale. Et même une fois à l'abri, il leur est impossible de quitter cette position. Ils ne peuvent plus se redresser. On croit d'abord à une blessure physique, mais non. La guerre est si terrible que leur corps se révolte. Leurs jambes ne les portent plus. Elles tremblent comme des feuilles. Certains soldats, atteints de ces troubles neurofonctionnels, sont soupçonnés d'être des déserteurs. Ils sont fusillés. Les autres sont cachés de la vue du grand public dans des asiles, pendant que l'on célèbre les gueules cassées comme des héros. À l'époque, il y a une jeune star de la neurologie, Clovis Vincent. C'est un médecin très très patriote. Trop patriote. Fin 1916, 860 000 hommes ont déjà été tués au combat, et la France a plus que jamais besoin de soldats. Alors Clovis Vincent va chercher les victimes de troubles neurofonctionnels dans leurs asiles. Et pour les remettre au pas, il invente la technique du torpillage. Clovis Vincent leur inflige des décharges allant jusqu'à 120 volts lors de séances pouvant durer plus de 30 minutes. Ces séances, appelons un chat de torture, ont lieu en public. Et Clovis accompagne ses coups de torpille d'encouragement.
Ça lâche, cochon, planqué.
On a quand même fait des progrès depuis Clovis Vincent. A priori, on ne torture plus et on n'invective plus les patients-patientes. En revanche, on continue parfois de les soupçonner de simulation. Les personnes qui en souffrent ne cherchent pas à se planquer. Elles sont submergées et elles arrêtent de fonctionner.
Le premier piège, c'est de se dire « si je vois rien, c'est peut-être qu'il n'y a rien ».
Professeur Ingrès.
C'est peut-être quand même que le patient, il en rajoute un peu ou qu'il simule. Et évidemment, ça, c'est une solution de facilité, d'économie mentale qui ne devrait plus exister à l'heure actuelle. Manque de connaissances, a priori, raccourci cognitif absolument insupportable.
Le manque de connaissances est un vrai problème. Mais heureusement, le trouble neurofonctionnel va apparaître l'année prochaine dans le manuel de référence pour l'apprentissage de la neurologie en France. Ça me fait vraiment plaisir parce que ça montre que les choses évoluent. Mais ça donne aussi le vertige de penser qu'une maladie aussi fréquente n'y figurait pas avant. Pour en revenir à Claire, il y a des signes cliniques qui auraient pu être recherchés pour permettre de diagnostiquer facilement une crise fonctionnelle dissociative. En fait, il y a tout un tas de signes qu'on va retrouver dans une crise fonctionnelle dissociative, mais pas dans une crise d'épilepsie. Les yeux se ferment pendant la crise, les membres bougent de façon asynchrone, l'intensité des convulsions fluctue au cours de la crise, il y a des secousses de la tête, la personne pleure pendant ou après la crise, il y a des mouvements de poussée des hanches. Et puis, une crise d'épilepsie, ça dure en général pas plus de 2 minutes, alors qu'une crise fonctionnelle dissociative, ça peut être beaucoup plus long.
Les crises fonctionnelles dissociatives sont des crises extrêmement fréquentes. On pense que c'est la 3e cause de malaise avec perte de connaissance. Le délai diagnostique moyen, c'est 7,8 ans, donc c'est absolument énorme. La première rencontre de cette patiente qui m'a expliqué ce phénomène de dissociation auquel j'étais pas du tout formée. Et la patiente me dit, je subissais de l'inceste. On était dans le même lit avec ma sœur et c'était soit moi, soit ma sœur, mais c'est pas si grave, j'étais pas là. Comment ça, t'étais pas là? J'étais à côté d'une rivière. J'entendais l'eau, je sentais le soleil sur ma peau et puis il y avait les petits oiseaux et puis j'étais allongée sur de l'herbe. Mais comment ça, tu viens de me dire que t'étais allongée dans le lit avec ton père incestueux? Et là, je me suis dit comment ce mécanisme aussi incroyable de dissociation à un moment qui l'a protégé d'horreur et d'horreur pendant des années est devenu un mécanisme de dissociation pathologique et destructif qui lui fait faire ses crises fonctionnelles, l'a fait chuter, l'a fait se fracasser un poignet par rapport à ça.
Qu'il s'agisse des crises fonctionnelles de Claire, de ses troubles de parole ou de ses troubles de la marche, vous l'avez compris, on a des manifestations neurologiques alors qu'il n'y a pas de lésion. Ce qui se passe le plus souvent dans un trouble neurofonctionnel, c'est que la détresse émotionnelle, la difficulté à vivre ou un autre tourment de l'esprit peuvent être évacués de façon involontaire au point d'induire un handicap majeur. Parfois, on ne sait pas très bien ce qui se passe. C'est comme si le cerveau prenait une mauvaise habitude dont il a du mal à se défaire. Dans tous les cas, il s'agit d'un dysfonctionnement du cerveau. Ce dysfonctionnement survient chez des personnes qui ont une vulnérabilité particulière. Il est souvent associé à un parcours de vie difficile et il est fréquemment déclenché par un facteur traumatique physique ou émotionnel.
Pendant longtemps, on disait « Non mais ces patientes, elles font ça pour attirer l'attention de leur entourage comme si c'était un bénéfice secondaire. » Je déteste ce terme de bénéfice secondaire qui ne veut pas dire grand-chose. Se dire que le patient, par une identité de malade, par un arrêt de travail, un arrêt de scolarité, continue ses manifestations parce qu'il en tire un bénéfice. Et moi, j'aimerais qu'on voit le problème un petit peu différemment. Vous vivez du harcèlement à l'école ou au travail. Vous débutez des crises fonctionnelles, des troubles neurologiques parce que émotionnellement, ce n'est plus gérable et donc la zone qui contrôle les émotions dans votre cerveau est suractivée et vient perturber d'autres zones. Et à ce moment-là, vous arrêtez d'aller à l'école, vous arrêtez d'aller au travail et on se dit, vous voyez bien, il en tire un bénéfice de ces symptômes. Non, il n'en tire pas un bénéfice. Ces symptômes sont une régulation, une soupape de cocotte minute qui lui permet d'éviter des facteurs de stress.
Je m'appelle Lucille, j'ai 28 ans, bientôt 29 ans, je suis avocate pénaliste. Mes symptômes sont apparus, c'était le 15 novembre. J'ai su dès que je me levais que c'était une journée particulière et que c'était une journée difficile. Je me forçais à faire quelque chose parce que j'allais dans la matinée défendre ou assister une personne accusée de viol, donc en gros... Je devais plaider un dossier de viol et j'avais pas envie de plaider un dossier de viol. Mon moi intime, mon moi, il voulait pas plaider ce dossier de viol et on me l'avait imposé. Et dans mes souvenirs, j'ai bien plaidé ce dossier de viol. J'ai le souvenir d'avoir une bonne plaidoirie. Et pourtant, au fur et à mesure de la journée, j'ai constaté que mon bras gauche n'existait plus pour moi. Et alors je plaide et je suis allée à une autre audience et c'est lorsque j'ai conduit que je me suis rendu compte que je n'avais plus de bras gauche, mais que ça ne me posait pas de difficulté. Je constatais que j'avais du mal à conduire, je constatais que c'est mieux quand même avec deux bras. Pour moi, ça ne me posait pas de difficulté que je n'ai plus de bras gauche. Je commençais par l'appeler par un prénom, j'étais de bonne humeur. J'étais pas particulièrement attristée, j'étais pas particulièrement apeurée. Et c'est les autres qui m'ont dit « Attends, il y a un problème. C'est pas normal que ton bras gauche bouge aussi peu. C'est pas normal que t'appelles ton bras gauche par un prénom. Va voir un médecin. » Mais sinon, non, j'étais absolument pas inquiète. Pour moi, c'était un fait. Ça y est, c'est bon, plus de bras gauche.
Lucille, elle, a un trouble sensitivo-moteur fonctionnel. Le médecin et écrivain Oliver Sacks, qui a lui aussi expérimenté cette maladie, a consacré tout un livre à sa relation à sa jambe.
Je ne te connais pas. Tu ne fais pas partie de moi. Je ne connais pas cette chose. Ces mots m'obsédaient. N'importe qui les aurait trouvés absurdes, mais pour moi, ils exprimaient une vérité essentielle. En un sens, j'avais bel et bien perdu ma jambe. Bien qu'étant toujours là objectivement, elle avait disparu subjectivement en moi. Il s'agissait, en quelque sorte, d'une amputation interne. Il y avait, d'une part, un grave déficit sensoriel, je ne sentais plus ma jambe, et d'autre part, un déficit d'ordre affectif. Je n'avais plus de sympathie pour ma jambe, elle m'était devenue indifférente.
Sur une jambe, Oliver Sacks.
Oliver Sacks développe ce trouble à la suite d'une chirurgie qui a permis de réparer son quadriceps arraché lors d'un accident de montagne. Il raconte que son chirurgien balaie d'un revers de main cette expérience terrifiante de perte de sa jambe qu'il est en train de vivre. Et c'est vrai que l'examen clinique, comme les examens complémentaires, retrouve en général peu d'anomalies. Mais les symptômes et le handicap fonctionnel sont bien là. Ils sont réels. Et d'ailleurs, le retentissement de ces symptômes fonctionnels sur la qualité de vie est strictement identique à ce qu'il serait si ces symptômes avaient n'importe quelle autre cause. Pour moi, les troubles neurofonctionnels sont une maladie du parcours de vie. Je dis souvent que c'est une maladie de personnes courageuses, parce que ça touche très souvent des personnes qui ont traversé des épreuves terribles et qui ont continué à avancer en serrant les dents, au point que le corps a été obligé d'intervenir, de protester.
Pour moi,
Claire,
mon corps a réagi de cette façon parce qu'il a dit stop à ma place, en fait.
Le fait d'avoir ce sentiment d'avoir une bonne plaidoirie, d'avoir plaidé le dossier, d'être dans ce rapport de force.
Lucile.
Et ensuite d'avoir le corps qui répond, d'avoir le bras qui ne bouge plus. Moi, je l'ai perçu comme étant une manière pour le corps de dire oui, de dire non. De dire non. Et effectivement, pas de dire stop, mais de dire non. Mais de dire non à ma place. Parce que moi, je ne pouvais pas dire non. Moi, je disais pas non. Moi, je montrais que j'allais plaider le dossier alors que je ne voulais pas. Et c'est mon corps qui a dit non, tu le plaideras plus. Ou du moins, je montre que je ne suis pas d'accord avec le fait que tu le plaides.
La personne qui était dans ma vie, qui était toxique pour moi, à chaque fois que je l'entendais, que je le voyais, je m'effondrais. Donc, j'ai vite compris que mon corps réagissait à ça. C'est parce que je vivais une situation très difficile et j'avais beau exprimer que ça n'allait pas, je n'arrivais pas à me sortir de cette situation. Et je pense qu'à un moment donné, le corps a dit « Stop, je n'y arrive plus, je ne peux plus ».
Je me suis rendu compte que six mois avant l'apparition des symptômes, j'avais une levée d'amnésie traumatique. Je subissais une levée d'amnésie traumatique en défendant un violeur. Je comprenais que mon moi enfant, que mon moi petite fille, et pas mon moi avocate, avait subi des violences sexuelles. À l'époque, j'avais même pas de souvenirs. Je savais juste que j'avais été abusée. Donc c'était ça aussi qui était assez particulier. J'étais persuadée qu'on avait abusé de moi. Je savais qu'on avait abusé de moi, mais je pouvais pas décrire l'intégralité des faits. Mais je le savais. Et dans le cadre justement de ce dossier-là, le cabinet dans lequel j'étais m'avait promis de ne pas replaider des dossiers de viol en défense jusqu'à ce que j'aille mieux. Et la veille de mes symptômes, on me dit « bah tu vas plaider ce dossier ». Et oui, c'est un dossier de viol. Et tu vas le plaider. Et maintenant, avec le recul, j'ai le sentiment en fait que j'avais donné mon intimité, j'avais donné ma vulnérabilité et je leur avais fait confiance sur le fait que ils allaient me respecter. J'extériorisais sur le fait que j'avais pas été respectée en étant enfant, que j'avais une amnésie traumatique de près de 20 ans, ce qui est assez énorme. Je pensais qu'on allait justement dans cet élan d'extériorisation de la parole, qu'on allait me respecter, qu'on n'allait pas abuser de moi, qu'on n'allait pas abuser de ma confiance. Et finalement, ça a été tout le contraire. Ça a été tout le contraire. Plusieurs mois plus tard, la veille au soir, on me dit « Demain, tu plaides ce dossier-là, il n'y a personne qui est dispo ». Alors je plaide cette journée, je rentre au cabinet et puis ensuite je finis aux urgences. Je suis restée 18 heures aux urgences. Les neurologues des urgences, qui étaient de garde, n'étaient pas d'accord sur le fait de me faire faire un IRM. Ils n'étaient pas d'accord. Il y en avait un qui disait « il faut qu'elle fasse un IRM cérébral ». Et il y en avait un autre qui disait « non, 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 c'est pas assez franc, c'est pas neurologique, donc on la laisse ». je le prends comme un jugement. Tu veux te faire soigner, tu veux montrer que tu es victime un peu, ce côté-là. C'est une forme de négation un peu, une forme de négation de la vulnérabilité du patient ou une forme de négation de la parole du patient, quoi. On te dit c'est dans ta tête parce qu'on ne sait pas l'expliquer, mais on va pas aller plus loin. On va se dire que tu le cherches, en fait, finalement.
Victime, on te croit. Agresseur, on te voit.
Ça vous rappelle rien?
Victime, on te croit. Agresseur, on te voit.
Trois personnes atteintes de troubles neurofonctionnels sur quatre ont vécu un traumatisme dans l'enfance, souvent des violences, et souvent des violences sexuelles. Trois personnes atteintes de troubles neurofonctionnels sur quatre sont des femmes.
Les femmes sont plus exposées que les hommes au risque d'abus sexuels dans l'enfance, de violences domestiques ou de viols. Or, ces différentes formes de violences sont des facteurs de risque importants de troubles neurofonctionnels. Donc, non seulement la protection insuffisante des femmes dans la société les surexpose aux troubles neurofonctionnels, mais en plus, elles sont ensuite montrées du doigt et moins bien prises en charge. Lorsque les femmes ont des manifestations compatibles avec un trouble fonctionnel, elles ont une probabilité moins élevée d'être examinées, investiguer et référer à un spécialiste. Et au final, une moindre chance de recevoir un diagnostic clair.
Le violeur, c'est toi !
Comme le clivage corps-esprit, la misogynie est aussi vieille que notre civilisation. D'Hippocrate à Galien, les femmes sont jugées faibles au plan anatomique, physiologique et psychique. Les troubles neurofonctionnels font déjà l'objet d'études dans l'Antiquité. Et ils sont expliqués par la nature essentiellement fragile, changeante et sujette aux humeurs excessives des femmes.
Les traumatismes qu'on subit pendant l'enfance vont impacter la manière dont le cerveau se développe. Le cerveau va se développer sur un mode plutôt de survie.
Professeur Garcin.
Ce développement va renforcer les connexions entre les régions émotionnelles et les régions motrices. Et ce qui leur a permis finalement de survivre à ces traumatismes a créé aussi une vulnérabilité. Et c'est cette vulnérabilité qui s'exprime aujourd'hui. Pour s'occuper bien de ces patients, c'est très simple. Il suffit de faire comme on fait pour les autres patients de médecine en général. La première partie, la partie de l'écoute et de l'examen clinique est très importante. Et je pense qu'il est vraiment important aussi de montrer aux patients qu'on les croit, parce que souvent dans leur parcours, ils rencontrent des personnes qui leur font comprendre que leurs symptômes ne sont pas réels. Donc c'est vraiment important de les écouter, de les examiner avec un examen neurologique classique, mais aussi à la recherche des signes cliniques positifs, c'est-à-dire des signes cliniques en faveur du diagnostic de troubles neurologiques fonctionnels. Dans beaucoup de cas, comme ces patients ne sont pas forcément considérés comme ayant une vraie maladie par les médecins, on ne leur donne pas le diagnostic, on leur dit qu'ils n'ont rien ou que c'est psychologique. Et pourtant, en fait, ils ont une maladie qu'on connaît bien et qu'on sait bien diagnostiquer.
La deuxième chose, c'est de se dire,
professeur Ingré.
Bon, ok, non, je sais, il y a des études, on m'a expliqué, il se passe vraiment quelque chose, le patient, il ne fait pas semblant, mais moi, je ne sais pas faire. Alors, vous n'avez rien, enfin, moi, je n'ai rien vu, je ne peux rien pour vous, allez donc voir quelqu'un d'autre. Et en fait, quand on est en difficulté, on a le sentiment de passer la patate chaude, ça peut être vécu comme extrêmement rejetant par les patients. C'est-à-dire qu'ils se prennent dans la face. Bon, écoutez, pour moi, vous avez rien. Allez donc voir un psy. Je dis toujours ce qui fait des psys, les grands spécialistes du rien. Le patient, il n'a pas rien. Le patient, il souffre. Il est handicapé comme jamais par ses symptômes. Et donc, c'est une minimisation majeure de ses troubles. Et il y a un vécu d'abandon qui est insupportable. Et sur un certain nombre de patients où ils ont eu des vécus d'abandon, où ils ont été impuissants, où on ne les a pas crus quand ils ont parlé de leur trauma, on vient renouveler cette situation avec le même type d'émotion. Donc évidemment, on maintient les troubles.
Factuellement, si on dit « il n'y a rien », il n'y a donc rien à soigner. En revanche, si on dit « il y a quelque chose », mais rien n'est définitivement abîmé dans le cerveau, alors au contraire, le message est un message d'espoir. Parce que ça veut dire qu'on peut tout récupérer. Parce qu'une chose très importante à savoir, c'est que les troubles fonctionnels sont réversibles. Mais il faut commencer par les nommer correctement et les prendre en charge.
Donc c'est vraiment important de prendre le temps de donner ce diagnostic et d'expliquer ce que c'est.
Professeur Garcin.
Ça va vraiment avoir un impact fondamental sur la suite de la prise en charge et sur le pronostic des patients, en limitant aussi toute l'anxiété liée au fait de ne pas savoir ce qu'on a et en limitant les examens et les explorations complémentaires inutiles. J'aime bien utiliser quand même des métaphores pour illustrer les propos. Par exemple, la métaphore du disque dur et du logiciel. Donc le disque dur est intact, mais c'est le logiciel qui ne fonctionne pas. J'utilise aussi la métaphore du membre fantôme pour expliquer le membre fantôme. En fait, hein, c'est une sensation ou des symptômes qui apparaissent chez des personnes qui ont eu une amputation et qui ont la perception intense que leur membre est toujours là. Et bien, ce que j'explique aux patients, c'est que chez eux, c'est l'inverse. Leur membre est toujours là, mais leur cerveau ne le perçoit plus. Il faut rééduquer le cerveau, lui réexpliquer la normalité.
Après, un levier majeur pour les patients, c'est de comprendre ce qui leur arrive.
Professeur Ingré.
C'est finalement mon cerveau qui cherche à me communiquer que quelque chose ne va pas. Ces symptômes, ils ont une fonction de régulation. Moi, je prends toujours la métaphore de la cocotte minute. Imaginez que votre crise, votre trouble de la marche, votre tremblement, c'est une sorte de soupape à la cocotte minute. Que finalement, ça monte en pression et qu'une manière de réguler la pression, de laisser sortir la vapeur, eh ben, c'est ce trouble neurologique fonctionnel. Ça a une fonction d'alarme, de dire quelque chose ne va pas, quelque chose n'est pas intégré, quelque chose ne va pas dans l'environnement.
Nommer, c'est apaiser, écrivait Roland Barthes. Le seul diagnostic peut être thérapeutique. Car en nommant, on reprend déjà un pouvoir symbolique sur la maladie. En comprenant le lien qui se joue entre notre corps et notre esprit, on peut aussi se réconcilier avec soi-même. Refaire alliance avec son corps, avec ses émotions, avec son environnement.
La question de la dissociation entre le corps et l'esprit, entre la volonté et le mouvement, est centrale dans les troubles neurofonctionnels. La dissociation, c'est une perturbation ou une discontinuité involontaire dans l'intégration normale des souvenirs, des pensées, de l'identité, des affects, des sensations, des perceptions, du comportement ou du contrôle des mouvements corporels.
Au moment de ces crises, ou dans d'autres troubles neurologiques fonctionnels, on est dissocié. Ça veut dire quoi être dissocié ? Ça veut dire ne pas être complètement dans l'ici et maintenant. Ça veut dire que mes cinq sens, ma mémoire, ma perception de mon environnement ne forment pas un tout unitaire. Et qu'il y a une partie de ça qui ne répond plus à mon contrôle ou qui est déconnectée du reste. Comment on fait pour revenir dans l'ici et maintenant ? Eh bien, c'est des techniques d'ancrage. Et il y en a plusieurs. On va essayer de s'ancrer à travers ces cinq sens. Par exemple, je demande à mes patients, OK, au moment où vous sentez une aura de crise, où vous sentez que c'est en train de monter, cherchez cinq éléments rouges autour de vous et décrivez-les. Essayez de percevoir quatre sons que vous pouvez avoir, le son de la voix de quelqu'un, d'une ventilation, d'un smartphone ou que sais-je. Trois choses que vous pouvez sentir, par exemple vos orteils au fond de sur la semelle de votre chaussure, la bague que vous avez au doigt, la ceinture que vous avez à la taille. Deux choses que vous pouvez sentir, et donc par exemple on va faire des trousses anti-dissociation avec des fioles de parfum, des huiles essentielles, et puis en termes de goût, il y a des patients qui peuvent avoir du poivre de Sichuan, qui peuvent avoir des bonbons tête brûlée, qui vont avoir des choses qui vont les ancrer dans l'ici et maintenant. Et puis pendant longtemps je faisais que ça, les cinq sens, et en fait maintenant quelque chose qui marche hyper bien, c'est en même temps de faire un schéma moteur. C'est leur dire, allez, tu mets ton doigt de la main droite sur ton nez, puis ton doigt de la main gauche et tu tapes du pied droit, puis du pied gauche et faire un schéma moteur compliqué. Ça oblige le cerveau à rester connecté dans l'ici et maintenant.
Une autre stratégie pour traiter les troubles neurofonctionnels, ça peut être de générer une dissociation choisie, dirigée, via l'hypnose par exemple.
J'ai souvent travaillé sur de la visualisation.
Claire.
Moi, en train de marcher, de courir, de danser, de bouger, d'être maître de mon corps. Voilà. Et en général, c'est assez miraculeux, en tout cas sur le symptôme de la marche, où on pourrait presque croire que je suis complice. C'est un petit peu lève-toi et marche, puisque souvent je ne peux pas marcher, puis je m'assois dans le fauteuil, on fait une hypnose, et puis j'arrive et j'arrive à marcher après. Donc ça semble miraculeux. En tout cas, ça a bien fonctionné pour moi.
On peut aussi parler à l'esprit par le corps et dire au cerveau que si, on peut bouger la jambe, le bras, on peut marcher.
Alors, il y a un outil qu'on utilise énormément en France.
Professeur Garcin.
Qui est un peu une spécificité française. C'est la stimulation magnétique transcrânienne. En fonction des cohortes, 50 à 70% des patients sont améliorés par cette approche, avec une efficacité qui est parfois spectaculaire. 30 à 40% des patients sont complètement guéris après l'application d'une séance de stimulation magnétique transcrânienne.
On est assis.
Lucile.
Et on a une sorte de chapeau qui va être mis au niveau d'une zone de la tête, du cerveau du coup.
En gros, le principe, hein, c'est qu'on met un gros aimant sur le crâne au niveau du cortex moteur, donc de la région du cerveau qui contrôle le mouvement. Et ça va stimuler cette région et ça va entraîner un mouvement du bras et de la jambe de l'autre côté du corps.
Alors c'est assez désagréable. Parce qu'on est habitué à être soit paralysé, soit avoir des membres très rigides, soit ne pas réussir à bouger quand on le veut. Et puis d'un coup, on ne va pas arrêter de sautiller, quoi.
On a l'impression que finalement, induire ce mouvement, ça permet au patient de percevoir le mouvement normal. Et ça, c'est un élément qui lui permet de reprendre possession de son membre et que ça joue un rôle très important dans le processus de guérison ou d'amélioration clinique.
Ce qui est très rassurant, parce qu'on se dit « Oh, waouh, ça bouge !» C'est-à-dire que quand on la stimule, ça bouge. Après, mon ressenti, c'est que ça marche sur le moment, mais j'avoue que c'est très décevant quand après on rentre à la maison et qu'en fait, on voit que ça bouge pas. En fonction de comment on réagit, il y a quand même une amélioration significative, je dirais, dans les 2-3 heures qui suivent.
Le traitement qui, aujourd'hui, malgré tout, a fait le plus preuve de son efficacité dans les troubles moteurs fonctionnels, c'est la kinésithérapie. C'est une kinésithérapie qui est très orientée TCC, c'est-à-dire thérapie cognitivo-comportementale, avec une grande part d'éducation du patient, de démonstration aussi du fait que son mouvement peut être normal. Et le principe de base de cette prise en charge, c'est de détourner l'attention du patient et de favoriser vraiment la fonction plutôt que la concentration sur l'organe atteint. Donc c'est très important pour ça qu'on ait des kinésithérapeutes formés, ce qui n'est pas encore beaucoup le cas aujourd'hui.
On dirait que ça va mieux, docteur Sachs, me dit l'une des kinésithérapeutes. Et si vous essayiez de faire un premier pas ? Elle me jeta un long regard, puis, comprenant l'inutilité des discours, sans dire un mot de plus, elle déplaça ma jambe gauche, avec sa jambe à elle, de manière à lui faire une sorte de pas. Aussitôt, je vis comment procéder. Ne pouvant m'expliquer comment faire, cette femme me l'avait montré. Et tout à coup, une musique, une glorieuse musique de Mendelssohn monta en moi fortissimo. La joie, la vie, le mouvement grisant. Aussitôt, sans que j'y aie préalablement pensé, sans que j'aie aucunement projeté, je me mis à marcher sans effort, joyeusement, avec la musique. Et à l'instant même où, grâce à cette musique intérieure, cette musique de Mendelssohn suscitée et hallucinée par mon âme, ma musique motrice, ma mélodie kinétique, ma capacité de marcher me fut rendue, ma jambe me revint. Ma jambe gauche redevint vivante, réelle et mienne. Solvitur ambulando. La solution au problème de la marche est la marche. La seule façon d'y parvenir est d'y parvenir.
Sur une jambe, Oliver Sachs.
Gauthier Rollin, je suis kinésithérapeute dans Paris. J'exerce en libéral depuis maintenant une quinzaine d'années. Et je m'intéresse aux troubles neurologiques fonctionnels depuis 2016 ou 2017. Un des facteurs qui, je trouve, fonctionne bien, c'est de jouer sur le côté ludique. Si le patient a fait un sport, a joué au foot par exemple, ben je peux très vite travailler avec des ballons avec lui parce que je vais savoir que ça va réveiller certaines choses dans son cerveau, dans son expérience, dans son corps. Par exemple, chez un patient ou une patiente qui a joué au football dans sa vie, on peut avoir ce patient sans ballon, n'arrivait absolument pas à mettre un pied devant l'autre, mais qui, avec un ballon entre les jambes, arrivait à marcher quasi normalement, voire à faire de la course à pied. Ce que j'aime utiliser aussi, c'est des situations qui peuvent être pressantes avec un automatisme qui va se réveiller, un mouvement automatique qui va prendre le dessus sur le problème de la marche, par exemple. Mais je m'étais servi de ça avec une patiente où, après avoir gagné quand même sa confiance, et une fois qu'elle avait su que le trouble neurologique fonctionnel était quelque chose avec une potentielle réversibilité, eh bien, je la mettais dans une situation un peu pressante où on s'était bagarré avec des coussins. On avait fait une bataille de polochons et on avait quand même le droit de se taper dessus assez énergiquement. Et c'était pour réveiller un petit peu cet automatisme avec un petit shot d'adrénaline quand on se fait taper dessus. Et je l'avais filmé en même temps, et quand on avait regardé les vidéos, en effet, elle était capable de bouger tout à fait normalement et à me donner des coups de coussin que je peux témoigner d'assez énergique. Et à la fin de cette expérience-là, elle avait vraiment éprouvé beaucoup de plaisir à pouvoir ressentir un mouvement normal. C'était une patiente qui, après ça, avait pu reprendre confiance en elle. Et à chaque fois que je lui proposais autre chose, elle s'attendait à pouvoir y arriver.
Les séances de kiné m'ont énormément aidée dans mon rétablissement parce que...
Claire.
Bah, je ne pouvais plus bouger, même si les médecins me disaient que je pouvais, je savais que je n'y arrivais pas. Et ça m'a aidée à retrouver des mouvements qui fonctionnaient et de ne pas forcer sur les mouvements qui ne fonctionnaient plus. Quand je fais des mouvements en fait, où je force trop, j'ai aussi beaucoup d'émotions qui peuvent ressurgir. Et à l'inverse, quand je fais des mouvements qui m'apaisent, qui sont plus fluides, j'ai aussi l'impression que ça apaise mes émotions.
Le but, c'est la réappropriation du corps.
Lucile.
C'est la réappropriation du corps. C'est l'objectif principal. Le but, c'est de faire comprendre à mon cerveau que j'ai un corps, qu'il est là et qu'il marche bien. Le corps dit non. Et moi, mon corps, il dit encore non. Mais ce qui est hyper particulier, c'est que mon corps dit non par à-coup. Il dit oui, et deux secondes après, il dit non. Et il lâche tout. Ce qui marchait, c'était l'exercice du miroir. C'est de mettre un miroir entre ma main gauche et ma main droite, de cacher ma main droite, de bouger ma main droite. Et en fait, par mimétisme, je vais bouger les deux membres sans m'en rendre compte. Alors que si j'avais pas le miroir, je bouge pas les deux membres. Ma main gauche ne bouge pas.
Le principe, c'est retrouver donc des mouvements que je suis capable de faire. Des fois, on essayait de marcher, par exemple, sur la pointe des pieds, ça fonctionnait. Je pouvais, des fois, avec la musique, ça m'aidait à retrouver aussi des mouvements normaux. J'ai appris à écouter mon corps pour vivre mieux ma situation, que ça soit le moins difficile possible, ne plus me retrouver dans la même situation où je ne suis plus capable d'exprimer mes émotions et que mon corps est obligé de l'exprimer à ma place. J'ai fait beaucoup de progrès pour exprimer mes émotions, presque 2 ans et demi de thérapie qui m'ont beaucoup aidé à déjà ressentir les émotions que j'avais en moi et à les exprimer, les identifier, les exprimer.
On a pris l'exemple frappant du trouble neurofonctionnel, mais d'une façon plus large, le trouble fonctionnel peut prendre par exemple la forme d'une fatigue chronique ou de douleurs chroniques. Des symptômes qu'on risque tous et toutes d'expérimenter à un moment de notre vie. Organique ou fonctionnel, c'est pas vraiment la question. La situation est plus complexe, comme souvent dans le soin. Par exemple, on peut aussi avoir une maladie organique associée à une maladie fonctionnelle. La maladie organique joue alors le rôle d'épine irritative. Elle déclenche le trouble fonctionnel. Et le comble, c'est que non seulement le fait d'avoir une maladie organique est un facteur de risque d'avoir une maladie fonctionnelle, mais qu'en plus, il arrive souvent que ces deux maladies se ressemblent, comme l'épilepsie et la crise fonctionnelle dissociative. Il faut peut-être même aller plus loin encore et imaginer que les maladies ont pour la plupart un gradient allant du fonctionnel à l'organique. Ce gradient permet de mieux comprendre les fluctuations d'une maladie, que ce soit d'un individu à l'autre ou même d'un moment à l'autre chez une même personne.
Ça peut être un gradient ou bien un cercle. Si toutes les maladies mêlent des causes physiologiques et des causes psychologiques, on peut voir ces causes s'entraîner les unes les autres de façon circulaire. Comme dans ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial.
Mais au-delà de ça, dans n'importe quelle maladie, il se peut que ce soit le cerveau qui n'arrive plus à faire face et que l'esprit ait besoin de crier sa détresse ou sa surcharge mentale à travers le corps. Ne pas avoir cette perspective, ne pas vouloir écouter ce que le corps raconte, c'est renoncer à prendre en charge correctement ses patients.
Je trouve que la prise en soin des troubles fonctionnels, c'est l'occasion parfaite de mettre en jeu tout ce travail qu'on fait dans le serment d'Augusta pour promouvoir une belle relation de soins. Une relation de soins où les émotions, où les traumas sont vraiment pris en compte. Maintenant, il y a des approches du soin sensibles au traumatisme qui se développent. Le patient ou la patiente n'est surtout pas poussé à révéler son passé traumatique, mais il s'agit de reconnaître son besoin de se sentir physiquement et émotionnellement en sécurité. Il s'agit aussi de l'empouvoirer pour qu'elle puisse choisir et contrôler son traitement. Pour qu'elle ne soit plus jamais un objet, mais bien un sujet dans la relation de soins.
Ça me tient vraiment à cœur de terminer sur une note positive. Le chemin de vie des personnes souffrant d'un trouble fonctionnel est généralement difficile, avec souvent une histoire de traumatisme. Et leur chemin de maladie est lui aussi particulièrement rude, pavé de retraumatisation. Mais je suis émerveillé par ce que les patients et les patientes arrivent à faire de ces expériences. J'ai parlé au téléphone avec une de mes patientes récemment, et elle m'a dit que l'expérience de la maladie avait finalement été très positive.
Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que je ne suis plus la même personne qu'il y a 7 ans. Ma vision de la vie a considérablement changé. Par exemple, j'ai quelque chose de négatif qui arrive dans ma vie, je décide tout bonnement de l'écarter. Car pour moi, être entouré de positif et rester positif est le meilleur des remèdes. Et j'ai pu également voir que le regard des gens n'avait aucune importance. Comme par exemple, quand je marchais avec une canne ou que par exemple mon pied partait sur le côté, les gens me dévisageaient, les gens me regardaient et j'ai appris à finalement les ignorer. Je peux dire que aujourd'hui, cette maladie, elle a finalement changé ma vie. Le négatif de cette maladie n'en a découlé que du positif.
J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de lumière au bout du tunnel. En tout cas, j'en suis persuadée. La lumière en sortant est très 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 éblouissante. J'en suis persuadée.
Finalement, pour moi, mon corps m'a sauvée de cette situation aussi. Merci à mon corps de m'avoir sauvée. Même si des fois je suis un peu en colère qu'il ne fonctionne pas. Mais... oui, merci à mon corps de m'avoir sauvée.
Le Serment d'Augusta est un podcast de Binge Audio, un hors-série Programme B en partenariat avec la Faculté de médecine Sorbonne Université et la Fondation APHP, écrit par Olympe Degé et Emmanuel Flamand-Rose, avec la participation de Rosaine Le Saint. Cet épisode a été réalisé par Paul Berthiaud et produit par Lorraine Bess. En supervision, David Carzon, directeur de la rédaction de Binge Audio.